Chers visiteurs, bonjour et bienvenue. Nous vous attendions pour cet accrochage qui fête les 5 ans du MacVal et de ce fait travaille sur le souvenir et la commémoration sous ses formes les plus diverses. Nevermore, souvenir, souvenir, que me veux-tu ? Titre de cette exposition mise en œuvre par le conservateur en chef Alexia Fabre se veut, je la cite, « une rencontre hors du commun et de la normalité, hors des sentiers battus et des attendus, l'opportunité de rencontrer ceux et celles qui nous racontent le monde autrement, singulièrement, qui renversent les certitudes et dévoilent l'envers du décor. » Alors, pour que la rencontre s'incarne toujours plus, nous avons laissé aux artistes le soin de vous commenter leur travail. C'est joyeusement et intimement qu'ils le font, pour vous, délivrant des souvenirs, des secrets et des idées que seuls détiennent. Vous entendrez aussi tous ces grains de voix, quelques rires, les accents d'un ailleurs enchanteur, le bel humanisme de Jacques Monory, les talents d'orateur de Pierre Buraglio, la dérision incarnée de Noël Dola, la précision de Nicolas Flock, pour ne citer que cela. Écoutez-les, car c'est à vous qu'ils parlent, à vous seuls et dans ces voix vous verrez les hommes et ces femmes à l'œuvre tels qu'ils sont. Et puisque le MacVal est un musée d'art contemporain, qui dit l'art d'aujourd'hui, quoi de mieux que ces voix vivantes pour un art en train de se faire ? Je vous laisse avec eux. C'est une chance et une vraie joie que d'entendre toutes ces voix, toutes générations confondues. Et qu'ils en soient remerciés, vous aussi, visiteurs, pour votre venue en nos murs.
Bonjour, je m'appelle Felice Varini et je suis peintre.
Je suis originaire de la Suisse italienne et donc je suis venu en France en 78 et je réside en France et ma vie artistique s'est totalement construite à Paris.
Cette œuvre s'appelle « Trois cercles désaxés ». Comme vous pouvez regarder ces cercles, il y a un point de vue à partir duquel je l'ai construit. Et puis après, les cercles se disloquent dans l'espace, s'autonomisent et deviennent une série de fragments totalement abstraits qui s'accrochent sur toutes sortes d'éléments de l'architecture. Cette pièce est faite pour le lieu. Je travaille toujours en dialogue avec l'architecture. Je fais rien dans mon atelier ou dans mon studio. Je suis toujours au travail par rapport à ce que je fais, dans le lieu où j'expose. Donc je suis dans un lieu, j'arrive dans un lieu, je regarde ses lumières, ses espaces, ses déambulations possibles, son architecture, et à partir de ça, avec mon outil qui est le point de vue et l'autre outil qui est la géométrie assez simple, cercle, carré, triangle, ligne, j'établis un jeu avec ce lieu et j'établis une relation qui se conclut avec ce genre de forme. Bon, dans ce cas, c'est trois cercles. Toutes mes pièces apparaissent à un moment donné quelque part. À partir de ça, elles ont un certificat qui les accompagne et une condition pour pouvoir voyager dans le temps et dans l'espace, disons. Je me définis jamais comme artiste parce que je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire et je sais pas où ça commence, où ça finit. Bon, moi, je sais que je suis peintre. Je peux parler de peinture et je peux parler de ma pratique en tant que peintre. Ma réflexion est vraiment liée à la peinture. Cette pièce, elle est là depuis le début du MacVal. Je découvre que c'est devenu une pièce qui compte beaucoup pour le MacVal. Bon, j'en suis très content et très fier pour la peinture. Je travaille pour moi, mais le public adhère et le public joue avec, le public s'y retrouve et ça lui plaît. Donc voilà, je suis très comblé.
Bonjour, je m'appelle Claude Lévesque, je suis l'auteur du Néon Amertume. Pour moi, ça fait partie d'un récit comme ça qui s'établit un peu parallèlement à mes installations in situ. Et là, il s'agit toujours d'une série de néons qui font partie des lieux communs de la vie, des choses qui sont liées au quotidien, aux sensations qu'on a. Amertume, ça a un sens pour tout le monde. C'est un moment de la vie où on peut être en déshérence, où on peut être en avec des ressentiments, enfin bon, ça, l'idée de réaliser ces, ces phrases, ces mots en néon est venu de la collaboration avec ma maman, qui avait une très belle écriture, très dessinée, mais au moment où j'ai commencé à lui demander d'écrire, ce type de phrase, elle perdait la vue, donc ne distinguait mal ce qu'elle écrivait. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette écriture néon, fragile, un peu incertaine. Donc c'est vrai que dans cet espace, on est vraiment immergé, parce qu'on est face à cette situation d'amertume. Plongé dans le bleu, la couleur est très importante dans les néons. Quand je choisis une couleur, c'est très important, c'est en fonction de l'impact, de la raison du mot et de ce que ça va pouvoir créer selon les sensibilités de chacun. Quand je choisis un mot, c'est quelque chose toujours d'assez poétique, toujours une sorte de parole suspendue comme ça dans le quotidien. Le bleu est une couleur qui est liée à l'abîme, de mort. Moi, je vois ça comme ça. Bon, c'est aussi le bleu du ciel. Enfin, il y a un côté abyssal dans le bleu. Donc, pour moi, c'était un moment important d'être à l'ouverture de ce musée. Moi, aujourd'hui, au bout de 5 ans, un musée qui a vraiment pris sa marque, son identité, qui est pas pareil que Beaubourg, qui est pas pareil que le musée d'art moderne. Il a un autre rôle. Bon, après, il y a un rayonnement, c'est vrai, pédagogique que tout le monde reconnaît, qui sert aussi à l'identification de l'art, à l'accès de l'art pour tous. Pensez vraiment à ça, et ça, je pense que ça, vous faites le constat que ça fonctionne vraiment bien. Et on le sent, quoi. Il y a la population, elle est à la fois faite du milieu parisien, du milieu de l'art, mais aussi tous les habitants du coin, les jeunes, les moins jeunes. Et ça, c'est pour moi, et je suis vraiment fier d'avoir pu justement ouvrir ça avec cette proposition du Grand Sommeil.
Je vois de loin la mer immense, comme quand on marche sur la plage vers la mer. Je m'appelle Agnès Varda, c'est moi qui ai fait cette photographie. Un jour, comme ça, à la tombée du jour, j'étais avec un tout petit appareil dans ma poche. Moi qui avais été photographe pendant des années de jeunesse, avec des gros appareils et une mise en place très soignée, ce qu'on pouvait appeler dans les années 50 des photos artistiques. Maintenant, j'ai plutôt cette idée que on attrape un moment précis sur une impulsion, un moment de lumière, parce qu'on est là, à ce moment-là et à cet endroit-là. Donc la mer immense, c'est telle que je l'ai vue. Quand j'ai fait faire cet agrandissement de 4 mètres sur 6 mètres, c'était pour qu'on puisse marcher vers cette image comme on marche vers la mer, dans un format d'environnement. Et puis parce que justement, on s'était trompé de format, je me suis rendu compte que ça m'intéressait d'avoir deux fois cette image à une proportion un tout petit peu différente. C'est-à-dire, il y a une seule chose fixe dans la vie, c'est l'horizon. Donc cet horizon existe, à part qu'il existe sur une photographie et un autre morceau de photographie qui n'est pas au même format, mais qui reprend cet horizon. Si j'étais photographe il y a plus de 50 ans, je suis devenu cinéaste pendant beaucoup d'années, et maintenant j'ai le plaisir de travailler dans cet esprit des musées où le questionnement est différent. Et c'est pourquoi sur le mur de droite, il y a une petite photographie. Mais c'est la même. C'est la même mer immense devenue toute petite et encadrée. Donc la petite mer immense représente ce qui se passe aujourd'hui avec la photographie, qui est en même temps aussi précieuse qu'avant. Il y a des photographes qui vendent des tirages numérotés, bien soignés, sur barité, signés au dos, tamponnés avec le sang du photographe peut-être même, entre la photo et le cadre, enfin bref. Et puis il y a cette idée que la photo c'est n'importe quoi, c'est des affiches, c'est des grands panneaux, c'est de la pub, c'est de l'image géante. C'est cette juxtaposition qui n'est pas tout à fait une contradiction, mais les deux approches de la photographie, c'est ça qui m'a intéressée, c'est ça qui est proposé et que le MacVal expose ici.
Bienvenue au MacVal, je m'appelle Pierre Buraglio et je vis dans le Val-de-Marne. Alors je suis heureux de retrouver évidemment aussi un certain nombre de mes travaux que j'ai pu faire disons ça s'étend sur une 30, 35 ans à peu près. Ces œuvres anciennes ont été acquises dans le cadre du fonds départemental du Val-de-Marne et que ce fonds était très original et très novateur. Il était dû au président Germain et au Jean Moulin et à d'autres. Tous ces travaux sont pas là par hasard, hein. Ils s'inscrivent dans un grand déroulement et ils ont été bien choisis. Alors, ce mur des murs, pas qui est la dernière proposition faite au musée, c'est un ensemble de paysages de mon coin, on dirait, de Maison Alfort, pour leur donner des noms de rues, et des noms de rues que ma propre municipalité n'attribuerait pas. Vous pouvez avoir l'avenue du bebop. Le bebop, c'est un grand mouvement de jazz qui pour moi est aussi important que le surréalisme. Et c'est une façon de leur donner un peu d'oxygène, les inscrire aussi dans l'histoire que l'on vit au présent et même de façon même très conjoncturelle. Quand j'ai intitulé le tableau numéro 10 « Parc des Tziganes », il est évident que le discours était explicite. Je n'ai jamais fait autre chose que de la peinture. On pourrait dire que j'ai fait de la peinture sans pinceau et qu'aujourd'hui je refais de la peinture telle que je l'avais appris. Oh, je la fais avec un certain brutalisme. Et cet assemblage de gauloises bleues qui s'inscrit dans l'histoire de la peinture, l'histoire du bleu, plus spécifiquement des fresques de Giotto au papier découpé de Matisse, si vous voulez. Mais enfin, cette matière première, la gauloise, elle a un caractère populaire. On en trouvait par terre, puisque je n'ai pas seulement utilisé mes propres paquets, mais des paquets ramassés et mis à plat, parce qu'ils offraient à l'œil des nuances, ayant subi quelques effets d'intempéries. Et la deux chevaux, ça peut être à la fois le comble aujourd'hui du snobisme, et puis en même temps, c'était une voiture remarquablement bien faite, bien pensée, mais aussi peu chère. Il y a comme ça... sans aucun ouvriérisme, misérabilisme, etc. C'est, disons, glaner, aller au plus simple et ce que je peux trouver autour de moi, moi-même participant de ce mode de vie.
Je m'appelle Sarkis. Je suis arménien d'Istanbul. Et je veux dire quelques mots concernant cette œuvre qui est dans la collection de Macfall. Bon, c'est un musée qui invite à une certaine sérénité. Mais la genèse de cette œuvre renvoie à des moments plutôt douloureux, je dirais. C'est qu'il y a un mot qui est en allemand. Ce mot, c'est Kriegsschatz. Krieg, c'est la guerre, et Schatz, c'est le trésor. Depuis presque 35 ans, je travaille sur cette expression, ou sur cette analyse des situations depuis 1975, quand j'étais à Berlin. Dans ce mot, il y a plusieurs choses, dont la critique des musées, qui sont remplis par des butins de guerre. Donc, en fin de compte, ce bateau... qui fait référence à la guerre, en même temps, c'est un bateau qui protège aussi. Donc, il y a toujours ce va-et-vient dans mon travail. Non, mais je fais partie de ces moments où il y a un autre art qui est venu, qui est né, quoi. C'est-à-dire l'art d'installation. Parce qu'il y avait l'art de la peinture, l'art de la sculpture, c'est l'art d'installation, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il prend en considération, il a l'espace, il a la lumière, il a le vécu du lieu. Bon, il a le son, effectivement, qui entre. Je dirais que c'est assez proche, c'est en grande parenté avec le théâtre. Ronconi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Orlando Furioso. J'étais foudroyé quand j'avais vu ça. Mais aussi le spectateur actif, n'est-ce pas? Actif. C'est pour ça qu'on crée... Et tous ces objets, effectivement, que les gens aller vers un objet, après vers notre situation, ainsi de suite, des déplacements. C'est peut-être que c'est tendance nostalgique de dire ça, mais pour moi, l'œuvre doit être active dans un musée, ainsi que le spectateur. Et le metteur en scène, en fin de compte, dans tout ça, c'est sous la direction de quelqu'un.
Bonjour, je suis Michel Debruin, un artiste québécois. Je suis content de vous accueillir au MacVal. Je présente Black Wall Conference, la conférence du trou noir. L'origine de cette pièce, c'est probablement ma fréquentation quand j'étais petit de la géode fabuleuse de Buckminster Fuller, à Terre des Hommes. C'est une pièce qui était le pavillon canadien. Le pavillon américain durant l'exposition universelle à Montréal. C'est donc une immense géode. C'est sûr que c'est une forme d'architecture utopique qui m'a toujours fasciné, puis qui effectivement il y a un rapport à la mémoire, parce qu'on dirait que l'utopie c'est quelque chose aujourd'hui qu'on regarde un peu comme quelque chose qui était possible d'imaginer par le passé. Aujourd'hui je dirais que l'utopie, on la voit plus de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même optimisme, peut-être, par rapport à ces possibilités qui étaient offertes, peut-être, dans les années 50, quand Buckminster Fuller dessinait des géodes comme ça. Donc, le principe de fabrication, c'était d'utiliser des formes simples pour fabriquer des architectures modulaires. Donc ça fonctionne un peu selon le même principe. Mais ici, je travaillais avec des chaises qui ont quatre pattes. Donc, ça devenait assez complexe de réaliser une forme ronde avec des chaises. Donc, il a fallu les tordre pour que ça fonctionne. C'est des chaises un peu archétypales de salle de conférence. Donc, c'est des chaises qu'on a un souvenir de ces chaises-là, mais réassemblé dans une nouvelle forme qui est assez surprenante. Donc, ce qui m'intéressait peut-être, c'était de défier la gravité, d'assembler les chaises dans un univers où il n'y aurait pas de haut, pas de bas, où les chaises sont assemblées pour former un genre de système immunitaire, où en pointant vers l'extérieur, on a l'impression que cette forme-là est comme retournée sur elle-même, donc ça forme un genre de lieu de rassemblement où il n'y a pas de centre.
Alors, je suis Christian Boltanski. Je dis toujours que je suis un peintre et je me sens un peintre, même si j'emploie pas des moyens traditionnels de la peinture. Mais je me sens peintre parce que j'essaye de donner des émotions, pas par la parole, bien que là je parle, mais par des moyens visuels. Et l'avantage de l'image peut-être sur la parole, parce que là on va essayer d'expliquer quelque chose, c'est que l'image est quelque chose de plus ouverte et que c'est au spectateur de terminer l'œuvre et de voir ce qu'il a envie de voir. Je vais parler d'une de mes œuvres qui s'appelle « Les regards ». Mais je vous en dirai pas trop, parce que je crois que c'est à vous de ressentir ce que vous avez envie de ressentir. Bon, c'est des images que j'ai prises lors d'un reportage historique à la télévision. Donc il y a cette sorte de légère trame. Et il y avait des images, des photographies de ces gens, mais je n'ai voulu prendre que leur regard. Et c'est des images qui m'ont suivi pendant toute une partie de ma vie. Pour moi, c'est des gens qui nous jugent, mais qui nous regardent. Qui nous regardent un peu comme des justes pourraient nous regarder. Ils nous disent qu'est-ce que vous faites. Et j'ai désiré qu'ils aient cette allure très très légère, cette allure flottante. J'ai des points amusés qui sont mouvantes et émouvantes. Elles sont comme des feuilles à un arbre, comme ça. Elles sont en même temps, elles n'ont pas de poids. mais elle nous interroge peut-être. Mon travail a toujours été d'essayer d'arrêter le temps et de conserver la mémoire. Ma question, qui est une question simple, c'est que je crois que chaque personne est unique et qu'en même temps, chacun de nous va disparaître tellement rapidement. Et donc j'ai essayé de sauvegarder ce que j'ai appelé la petite mémoire, pas la mémoire historique qui est dans les livres, mais la petite mémoire. Toute mon œuvre est un échec parce que naturellement on ne peut pas lutter contre la disparition. Mais d'être humain, c'est d'essayer de se souvenir de ses ancêtres et de savoir qu'il y a eu des gens avant nous et qu'il y en aura après nous.
Bonjour, je suis Nicolas Floch, bienvenue au MacVal. Je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé en 2007 qui s'appelle Performance Painting 4. Il s'agit en fait d'un recyclage de tapis de danse. J'ai beaucoup travaillé en fait avec des danseurs. J'ai souvent remarqué les tapis qui sont des grands monochromes noirs marqués des traces des danseurs. Et je trouvais que cette matière et cette densité étaient assez exceptionnelles. J'ai donc décidé de transformer en fait ces tapis en peinture, de les monter sur châssis comme une toile, et de renverser la scène, de l'accrocher au mur en fait. Donc c'est une sorte de scène impossible qui présente une densité assez particulière et qui renvoie en même temps à certains grands mouvements de la peinture. On pense à la peinture américaine. Performance Painting est présenté, donc est composé de 4 modules de 8 mètres par 1 mètre 25. Et il y a obligatoirement au moins 2 modules collés les uns aux autres, qui peuvent être présentés horizontalement ou verticalement. Alors, elle a été produite par le MacVal pour une exposition qui s'appelait Zone de productivité concertée. C'est vraiment pour moi une œuvre picturale. Mais bien sûr, on ne peut pas le détacher complètement de la scène, et il y a toujours ce rapport à la scène qui est quelque chose d'horizontal et qui d'un seul coup se retrouve dans une position verticale en fait. Et donc j'utilise des choses qui sont vouées à être jetées en fait, et que je déplace et que je recontextualise, et qui vont prendre un autre sens. Donc il y a vraiment une économie de production, et j'étais très heureux que cette pièce puisse rester là, parce que je pense réellement que c'est un musée qui fait un travail assez exceptionnel en France, qui, je pense, a une collection assez particulière, qui est tournée beaucoup vers les artistes français et vers les jeunes artistes français.
Je m'appelle Jamel Tata. Voilà, bon, c'est une œuvre sans titre, qui appartient à une série de tableaux sur le thème de la chute. Et ce tableau, en particulier, est apparu après une petite discussion avec un copain sur le thème de la chute. Puis un jour, il m'a envoyé un petit extrait que je peux vous lire. Et la chute en prise en vol, qui tombe, vole, puis s'ouvre les abîmes, l'obscur vient au jour. Hannah Arendt. Donc cette petite phrase m'a un peu nourri comme ça, mais j'ai pas fait les tableaux tout de suite non plus. Et ils sont apparus un jour où j'allais dans la campagne et où le ciel était très blanc, c'était un ciel d'hiver, un matin, et le ciel était très blanc. Et je réfléchissais à la couleur, voilà. Et puis je réfléchissais à cette idée de la chute, à les tableaux que je pouvais composer. Et voilà, donc le blanc dans mes tableaux était aussi une couleur que je n'avais jamais expérimentée dans son expérience de l'espace, on va dire. Et les choses sont apparues comme ça. J'ai mis les corps dans ces grands espaces blancs sur mes dessins, et là j'ai enlevé les têtes parce qu'elles n'étaient pas utiles, voilà, pour le sujet. Et j'ai pas décapité pour la disparition, j'ai décapité pour pour la dynamique en fait des corps dans l'espace et en pleine chute. Voilà. c'est l'obscur qui vient au jour, donc on monte. Donc on peut se redresser en s'élevant. Et peut-être que tomber une fois dans sa vie, ça peut être salutaire. C'est la chute sociale, ça veut dire celle où on se déglingue complètement dans une vie normale. Et puis des événements tragiques, tu vois, donc qui provoquent ces sentiments de la mélancolie, par exemple. Ma volonté est vraiment de faire vivre la peinture, parce que j'aime peindre, voilà. Et dans mon travail, j'ai essayé en fait de fusionner, on va dire, d'hybrider, on va dire, les deux histoires, celle de la représentation et celle de l'abstraction. Oui, je travaille donc d'après la photographie, et ces photographies-là sont en général des documents que je réalise moi-même. Et je mets toujours en scène mes modèles. Par exemple, dans le tableau de la chute que vous pouvez voir donc là sous vos yeux. Au départ, l'idée c'était un tué par balle, et j'avais demandé à un copain de jouer comme dans un film de série B, un homme qui ramassait une balle en pleine poitrine. Et donc toute cette série de photographies, elle est en plein pied sur la terre. Mais grâce à un logiciel donc dans mon ordinateur, je peux bouger l'image et la faire voler. Voilà, donc lui enlever la ligne de terre et tout ça. Et donc j'ai pu composer avec quelques images ces deux figures tombantes ou volantes au choix.
Moi, Marc Bruce, donc, je suis né en Hollande il y a 73 ans. Cette pièce s'appelle Private Clinic, la clinique privée. Bon, il ne faut pas tout de suite chercher des éléments qu'on trouve dans une clinique privée. J'avais un grave problème avec l'alcool, mais vraiment un sérieux problème, et je n'arrivais pas à résoudre ça. C'est juste, la seule chose que j'ai toujours continué à faire, c'était travailler, mais travailler avec une énergie qui était pour mon état assez étonnant. J'avais cette idée de faire quelque chose de grave, mais avec un aspect assez sympathique, assez léger, avec des couleurs plutôt gaies, pas tragiques. D'ailleurs, je trouve ça très, très intéressant que la pièce est placée à côté de Gilles Barbier. Parce que quand je vois ce bonhomme par terre, je reconnais certaines choses. Ouais. Et c'est très intéressant de voir comment deux artistes peuvent traiter un même sujet de tout à fait une autre façon. Ouais, 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 ouais. J'ai pratiquement fait que des assemblages dans tout mon parcours. L'assemblage est devenu mon technique. Mais le principe est resté le même. Essayer de trouver une tension entre différents objets. Et souvent des objets qu'on trouve dans la vie quotidienne, mais par l'isolement, par la confrontation avec autre chose, on est forcé de le voir d'une autre façon. Ce n'est pas une illustration d'une situation, pas du tout. Je ne me rends pas toujours compte pourquoi et où je trouve la nécessité de faire telle et telle œuvre. Je ne sais pas toujours. Et c'est souvent, des années plus tard, que je dis, mais c'est évident. Finalement, chaque interprétation d'une œuvre, c'est la bonne interprétation. Parce qu'on a notre état d'esprit du moment, on a notre caractère, on a notre passé, etc., etc. Donc, tous ces éléments que nous, on donne à voir, ils ont la possibilité d'être interprétés de différentes façons.
Quelques pas plus loin et un peu plus loin, après avoir passé l'ivrogne affalé et le tourbillonnement de ce qu'il a dans la tête, et quand on rentre dans une salle où à droite il y a les photos des hommes qu'aime Annette Messager, elle les aime, elle les aime pas. Sur la gauche, là, il y a une salle avec un travail qui m'a beaucoup plu parce qu'il a commencé dans la vérité de la vie et il s'est transformé en une réflexion sur la représentation. La vérité de la vie, c'est qu'on avait un chat dans la famille qui s'appelait Gougou, une chatte plutôt. qui a été très, très proche de nous. C'était une chatte très affectueuse et qui a été même complètement affectueuse quand Jacques est mort. Elle est restée sur son lit, même quand il était mort. On était très impressionnés par cet attachement réel qu'elle avait. Mais elle est devenue vieille aussi et elle est morte un jour, tranquillement, sur le canapé, à côté de mon fils Mathieu, qui m'a appelé vraiment, presque en pleurant, en me disant « Je vais l'enterrer dans le jardin ». J'ai dit « Mais bien sûr, mais bien sûr ». Et c'est ce qu'il a fait. Et quand je suis revenue quelques temps après, dans ce jardin, je me suis dit qu'il fallait faire un beau tombeau à cette Zgougou. Alors c'est vrai que le mot tombeau est utilisé dans la littérature comme hommage, mais aussi c'est parce que dans les cimetières et ailleurs, on fait des tombeaux à ceux qu'on aime. J'ai imaginé deux animations. La première, c'est sur le tombeau même, à même le sable, une projection nous envoie quelques images de Zgougou vivante. Zgougou installé sur les ordinateurs, Zgougou remplaçant Léon de Belfort sur la place d'Enfer Rochereau, Zgougou même vieille se levant comme un petit chat tout jeune. C'était une chatte exceptionnelle, donc on la voit un peu. Sigi Zgougou. Et après, c'est la fête. La deuxième animation, c'est l'arrivée de coquillages qui couvrent peu à peu la tombe sur une très belle musique de Steve Reich. Et c'est une animation qui a été faite de façon très archaïque. Donc, un coquillage, une toile de mer, un coquillage. Ça se couvre comme ça, clac, 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 clac. Et puis, sur le fond, j'avais mis des petits bouts de bâton. On a commencé aussi à animer, à mettre des petites fleurs en papier rouge, des espèces de roses en papier. Et d'un seul coup, le tombeau est une espèce de jardin de coquillages et de fleurs, de papier. Ce tombeau de Zgougou représente vraiment comment, d'une petite tombe de chat, on peut décliner et dérouler des pensées, des impressions et surtout des images, des vraies images, de s'élever au-dessus de la réalité et de s'élever au point d'être tellement loin qu'on est perdu dans le monde.
Bonjour, je m'appelle Shirley Joff. J'habite à Paris depuis très longtemps, malgré mon accent. Je suis très contente d'être dans la collection de Macval. Pour expliquer ma tableau, je peux dire que j'ai revenu de New York quand j'ai fait ce tableau-là. Et j'ai gardé un souvenir de la contraste et la vigueur et la vitalité de New York. Dans le tableau, si vous le regardez, il y a les différentes formes qui sont contrastées l'une contre l'autre. Comme j'habite tout près de Jussieu, quand j'ai terminé le tableau, je l'ai appelé Jussieu, parce que c'est un souvenir de New York et aussi une réalité de Paris. Au fond, c'est un tableau non figuratif. Le tableau exige que vous regardez d'une chose à l'autre, qu'il n'y a pas une définition d'une chose seulement. J'ai fait une peinture qui était gestuel. À un moment donné, j'ai compris que le geste n'a pas compté pour moi spécifiquement, qu'il y a autre chose que j'ai voulu exprimer. Cette autre chose était l'idée de la relation entre les choses. Et c'est ça que j'ai commencé de mettre plus en évidence. Mais j'ai toujours regardé la peinture française aussi. Matisse, Léger. J'ai venu avec mon ex-mari qui a eu le GI Bill, qui est une bourse pour les Américains dans la dernière guerre. Et nous sommes venus ici comme beaucoup d'autres gens.
Bonjour, camarades, je m'appelle Noël Dola. Donc voilà, c'est simple. Mimoseur 2, c'est un peu en effet une peinture de la mémoire. Et la mémoire en général, c'est quelque chose qui a à la fois affaire à l'histoire et à sa propre histoire. Et là, en l'occurrence, ce Mayemoser 2 est une peinture qui entre dans un ensemble de peintures. Ces tableaux, en fait, sont des sortes de représentations de la mémoire de plus en plus absente de ma mère, puisque ça vient après. Ces peintures ont été faites au moment du décès de ma mère, et c'est des peintures donc un peu assez sombres, dans le sens où vivre la perte de la mémoire est quelque chose d'assez redoutable. Ensuite, pour ce qui concerne le regard que l'on peut avoir sur la peinture, c'est de... Bon, Mayemoser 1, par exemple, le grand triptyque numéro 1, est un tableau qui s'est appuyé sur l'œuvre de Velázquez, ne serait-ce que pour les grandes robes noires, et puis pour la façon dont le peintre se représente, est à la fois représenté regardeur dans une espèce de miroir, qui est à la fois la miroir de l'histoire qui l'entoure, et puis comment, avec une histoire, ne pas faire des histoires, mais faire de la peinture, c'est-à-dire transformer à la fois la pensée et la parole en un acte qui est particulier, c'est celui d'une pratique de la peinture. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas tellement écouter ce que je raconte, mais bien regarder ce qui fait la différence entre une peinture et une autre peinture dans ce qui constitue la peinture, c'est-à-dire cet acte qui est simplement adressé à l'œil, d'abord, pour que l'esprit travaille ensuite. Ces peintures aussi ont toujours, en fait, pour moi, là, j'ai écrit assez souvent que toute pratique artistique est idéologique, et donc il est évident pour moi que de rappeler dans un tableau, par quelques lettres, trois lettres là en l'occurrence, qui sont C-H-E, c'est Che, et en effet c'est Che Guevara, et c'est aussi une mémoire de ce qui a constitué ma pensée politique et qui continue à la travailler.
Bonjour, bonjour, je suis Jacques Manori. Je suis content que ma peinture vous accueille au Macval. C'est moi l'artiste qui a fait ce tableau que vous voyez. Il est plutôt triste et on se demande pourquoi il a peint un camp de concentration. Mais en fait, je suis très touché par tout ce qui est humain et malheureusement, c'est humain de mettre les gens dans les camps de concentration. C'est lamentable. Mais j'ai foutu aussi une petite jeune fille à gauche, en bas du tableau. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une jeune fille qui avait été distinguée parmi les plus aryennes jolies de Suède ou je ne sais où, et il l'avait attrapé pour en faire une exploitation d'enfants de qualité. Ouais, complètement dingue, ces mecs. On n'a jamais fait mieux hein, dans l'histoire humaine que ces salauds-là. Alors, le camp de concentration a cette espèce de douceur qui est bizarre, parce que si on ne sait pas que c'est un camp de concentration, on peut penser que c'est assez joli, mais c'est surtout que j'ai voulu rendre un hommage à Gaspard David Friedrich, ce peintre allemand du 19e siècle, qui est extraordinaire. C'est un peintre que j'aime énormément, et il était de l'époque de Delacroix, mais c'était complètement différent. Delacroix est devenu très célèbre parce que ça fait beaucoup de bruit, Delacroix. C'est des trompettes, des cors. Ça, c'est Gaspard David Friedrich est toujours, presque toujours, oui, même toujours, dans une sorte de douceur et de force contenue et intériorisée, qui est toujours sur un sentiment très sensible des choses. Le contraste, c'est la vie. Alors, je suis vivant et je voudrais faire une peinture vivante. Donc, je peux justifier pourquoi je fais ce sujet si triste. C'est souvent dans la contradiction que la peinture est belle. C'est pour moi aussi un souvenir extraordinaire d'avoir pu être le premier à exposer dans ce musée qui est parfait. Et j'ai pas honte en voyant ce tableau. Alors c'est, ça va.
Bonjour, je m'appelle Renaud-Auguste Dormeuil, je suis artiste. Vous êtes devant trois images dont, qui ne sont pas des photographies et qui portent le titre de « The Day Before », ce qui veut dire « le jour d'avant ». Ce ne sont pas des photographies, ce sont des impressions sur papier qui ont la particularité d'être la veille d'un bombardement du XXe siècle. Je me suis intéressé à un logiciel qui permettait de reconstituer n'importe quelle constellation visible depuis la Terre à la date que vous voulez, sur le lieu que vous voulez. En fait, ces trois images sont nées d'une réflexion de savoir comment on pouvait représenter le drame sans le montrer. La première image que j'avais construite était celle de Guernica, et je me suis dit qu'en fait, si Picasso n'avait pas peint Guernica, on aurait certainement oublié le bombardement de Guernica. J'ai choisi et sélectionné des bombardements qui étaient représentatifs de la souffrance des populations civiles du XXe siècle, et j'ai refait la constellation qui a précédé la mort de ses victimes. Donc vous êtes devant le ciel de Dresde, la veille du bombardement de Dresde, en Allemagne. Vous êtes également devant le ciel de Coventry, en Angleterre, la veille du bombardement. Et enfin, vous êtes devant le ciel de Halabja, en Irak, la veille du bombardement de ce petit village. Ce qui était très important dans ces œuvres, c'était de mettre en relation le temps des victimes et le temps des bourreaux. C'est-à-dire qu'en fait, où ces constellations étaient visibles, les bourreaux savaient qu'ils allaient tuer et les victimes ne savaient pas qu'elles allaient mourir. Alors ces trois œuvres en fait sont assez caractéristiques de ma pratique artistique dans le sens où j'aime à réfléchir au moment d'avant et non pas au moment d'après. C'est une réflexion plastique qui est plus un constat. Quand on parle de la mort, les médias, la peinture, telle qu'elle a existé, montrent essentiellement des morts, des cadavres. Et justement, le sujet de mon travail, c'est d'essayer de trouver des images qui parlent de choses invisibles. Et pour moi, l'art est une machine à fabriquer des images de l'invisible. Alors moi, je suis essentiellement dans une pratique de la fabrication d'images qui est photographique et vidéo. Et moi, j'essaye de reprendre ces outils-là pour remonter en fait le fil du temps et le fil de l'histoire et fabriquer des images qui parlent des événements avant. À l'image d'une œuvre, et je pense de la construction d'une œuvre, il faut être dans l'ambition. Et ça, c'est une chose qu'on a trop laissé de côté dans les arts plastiques, c'est l'ambition de changer le monde. Alors peut-être qu'avec le temps, je me rends compte que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais ça fait partie de la figure de l'art pour moi, l'ambition de changer le monde.
Je m'appelle Alida Bougriette et j'ai réalisé une pièce qui s'appelle « Mots des mots » qui est aujourd'hui exposée au Macval. Donc effectivement, cette pièce est « Les mots des mots ». Les mots, c'est la notion MAUX de la culpabilité. J'ai voulu travailler avec des artistes, enfin plutôt des écrivains, dramaturges, slameurs en Algérie. C'est lors d'une résidence à Gigel. J'ai récolté énormément de textes. Et effectivement, je voulais les réécrire, donc les choisir, les réécrire sur un dos de femme et un dos d'homme. Parce que c'était vraiment dissociable. D'où le diptyque photographique. Ils sont à la fois très séparés, mais ils doivent être vus ensemble. Que l'homme est vraiment au centre de mon travail. Donc ces textes qui parlent de la culpabilité, c'est des culpabilités qui viennent à la fois de notre fond, de notre être profond plutôt, et des culpabilités universelles, c'est-à-dire le malheur des autres, est-ce qu'on le porte finalement. Donc l'idée de le porter, c'est de le mettre aussi dans le dos ou de s'en détourner. Donc c'est pour ça que j'ai pris le support de la surface d'un dos d'homme et de femme. C'est comme un écran, un papier, où le spectateur, effectivement, ça devient lecteur, même si les mots ils sont presque imperceptibles. Et j'ai dit, voilà, il faut les purifier. C'est un peu exagéré de dire de purification. C'est très religieux, ça appartient aux judéo-chrétiens, etc. Parce qu'il y avait aussi cette notion de péché qui revenait beaucoup. Et dès lors que qu'ils sont immergés dans l'eau, cette violence entre l'eau de la mer qui vient, si vous voulez prendre l'homme et la femme en tant qu'objet et de l'effacement. Les mots s'effaçaient complètement. Et il y avait quelques petits textes qui revenaient sur la surface de la photographie. Et j'ai travaillé sur le processus de la surexposition. Parce que alors je me suis dit, quand même, à un moment donné, la lumière vient donner une tridimensionnalité à ma photographie. Ce n'est plus une notion de deux dimensions, mais là, on en devient une troisième dimension. Et donc, ouais, on n'est plus dans la photographie, on est dans la peinture.
Bonjour, je suis Elisabeth Ballet, bienvenue au Macval et bienvenue devant ma pièce. Voilà, vous vous trouvez devant une sculpture qui prend la forme d'une route, qui est faite en 5 épaisseurs de 10 mètres de caoutchouc, que j'ai peinte dans mon atelier. Cette pièce s'appelle Eyeliner. C'est une pièce très très lourde, elle pèse 80 kilos par rouleau. Donc c'est une pièce qu'on ne peut pas poser en forçant, ça se dépose comme un voile en fait. Si je la déroulais uniquement en la laissant faire, ça serait comme un tapis chez le marchand de tapis. Mais c'est en relation surtout cette pièce-là avec sur la route de Kerouac. Un jour j'ai décidé de faire une route et en sculpture c'est pas évident. Et je me suis dit, c'est ça qui me plaît. Je veux donner l'idée d'une route en sculpture. Je l'ai faite molle et très passagère, puisque la route, pour moi, n'a pas d'entrée ni de sortie. Elle couvre le monde entier. C'est un réseau. Et c'est un dessin de rêve aussi. Le mot est arrivé avec la modernité, heureusement, parce que moi, je passe mon temps à chercher à faire justement une route. Je voulais faire une route parce que, justement, c'est que des courbes. La sculpture, pour moi, c'est un lieu qu'on ne traverse pas. C'est-à-dire que c'est... D'ailleurs, on ne peut pas marcher dessus. C'est un peu comme la peinture est très frontale. J'ai une culture, moi, parce que j'ai quand même 50 ans... J'ai une culture de la sculpture classique. J'aime Michel-Ange, par exemple, et j'aime Donatello. Mais je pense que toutes les œuvres d'art embarquent quelque part, donc activent chez les visiteurs un lieu de mémoire. Personnellement, je ne peux pas créer dans mon atelier porte fermée. Mon travail prend racine dans le monde réel.
Bonjour, je suis Ugrep et aujourd'hui je voudrais vous parler de la pièce que vous avez sous les yeux qui s'appelle White Spirit, Black Soul. White Spirit, c'est en même temps évidemment ce que vous connaissez tous comme étant le détergent bien connu. Et d'autre part, c'est un rapport avec les âmes blanches, donc une espèce de fantôme, et Black Soul, donc les âmes noires, donc une espèce de mélange un peu blues. Ici, il est question, en fait, de lanterne magique, de petites terreurs enfantines, probablement. Donc, elles sont installées sur un carrousel de manière à ce que leurs ombres projetées viennent créer comme ça une espèce de paysage. Alors, moi, c'est vrai que pour créer cette pièce, ce qui m'a le plus stimulé, C'était tout ça, toutes ces histoires à la Jules Verne, au cinéma de Georges Méliès. Ça, c'est le degré zéro du cinéma, en fait. C'est un peu comme si j'avais tenté, avec quelques rudiments, quelques ficelles, qu'on peut voir d'ailleurs, puisqu'on peut faire le tour de l'écran, l'archéologie ou l'archéo-cinéma, comme certains disent. Donc voilà, ces éléments qui sont en fait issus de carnets de dessin. Ces silhouettes sont dessinées de manière assez spontanée. La plupart du temps, mon travail a comme origine le dessin. Parce que pour moi, le carnet de dessin fonctionne un peu comme un atelier. C'est-à-dire que j'y puise comme ça des idées. Donc ils peuvent se développer aussi bien en volume, en silhouette, comme c'est le cas actuellement. Pour moi, c'est vraiment une relation également à la caverne de Platon, quoi. C'est vraiment le mythe fondateur du cinéma.
C'est-à-dire que c'est tout l'origine de l'illusion, en fait. Et le cinéma n'est qu'un prolongement de ça. De Platon à George Lucas, même combat, quoi. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait cette réminiscence-là aussi, de comment, en fait, on peut jouer sur l'illusion. D'ailleurs, Georges Méliès, au début, il avait racheté le théâtre de Robert Houdin, qui était un des plus grands magiciens français du 19e siècle, quoi. Donc, il y a vraiment comme ça une espèce de filiation entre illusion et cinéma, quoi.
Bonjour, je suis Julio Lepard. Je suis venu en France de l'Argentine dans l'année 58. J'ai développé mon travail ici, à Paris, de façon individuelle et de façon collective avec le groupe de recherche d'Arbisseuil, auquel j'ai participé de sa fondation. Les œuvres qui sont présentes ici, ça fait partie de la famille de mes recherches sur la lumière. Pour moi, c'est important, la lumière et les mouvements. Mais il y a d'autres recherches que j'ai développées sur d'autres thèmes. Le groupe de recherche de l'art visuel, le GRAF, on l'a fondé dans l'année 1960. On a porté des expériences de travail en commun qu'on avait fait à notre époque d'étudiants en Argentine. Et ici, on a cherché et on a rencontré à travers de Victor Vasarely, François Molnar, par exemple, qui nous a mis en contact avec François Morellet, Joël Stein, Ivara et d'autres. Et par la suite, le GRAF, il a continué toujours. Et une façon, c'était de s'approcher des spectateurs, qui c'était l'élément oublié pour la valorisation de l'art à ce moment-là, et pire encore maintenant. À l'époque, on comptait avec les critiques d'art, les marchands de tableaux, le directeur du musée et surtout les collectionneurs. Et les spectateurs, c'était l'élément complètement oublié. Alors on a cherché, en commençant par des sollicitations rétiniennes avec des choses optiques, et petit à petit on a trouvé des propositions pour incorporer davantage les spectateurs, pour les faire participer d'une façon chaque fois plus active, soit par son déplacement, soit par la manipulation des objets, soit en participant à des salles de jeu ou en pénétrant des labyrinthes qu'on a fait. On a fait aussi des sorties dans la rue à la recherche d'un nouvel spectateur et toutes sortes d'expériences nous ont donné la conviction de que les gens sont à eux-mêmes très capacités pour apprécier l'art de notre temps.